France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
La revue de presse, Claude Ascolovitch. Claude, ce matin, on parle d'une nuit de juillet dernier.
Dans Le Monde, la nuit d'Alexandre Benalla le 18 juillet dernier, quand son affaire venait de naître par la révélation par Le Monde déjà que l'alors adjoint au chef de cabinet du président avait molesté des manifestants le 1er mai. Ce soir du 18 juillet, Alexandre Benalla s'enfuit au Damas Café, un bar à chicha proche de l'Élysée où il avait sa place attitrée à gauche près de l'entrée. Et de là, il téléphona et envoya des textos à Christian Proutot, qui jadis fut le patron des gendarmes de l'Élysée sous François Mitterrand, mais aussi à Thierry Légier, garde du corps de Jean-Marie, puis de Marine Le Pen, mais aussi beaucoup de textos et d'appels à Ismaël Émélien, conseiller spécial du président Emmanuel Macron, jusqu'à 2h28 du matin, puis à nouveau peu après 5h, me dit Le Monde précis. Et de ces appels et messages, dont j'ignore le contenu, mais dont on connaît l'existence par les fadettes, ces relevés de communication qu'ont vu les enquêteurs et qui se retrouvent indûment dans un journal, Le Monde fait un article d'ambiance autant que d'investigation, un exercice de style qui, à partir de simples relevés téléphoniques, veut construire un récit convaincant du pouvoir. Et on devine alors dans Le Monde aussi bien la personnalité, disons, éclectique d'Alexandre Benalla, que l'existence d'un réseau d'hommes de l'ombre autour du président et la panique qui s'empara de ce réseau la nuit où l'affaire Benalla commença. Pouvait-on deviner l'ampleur qu'elle prendrait ? Je lis sur le site de l'Obs qu'en décembre dernier, la diplomatie française a averti une dizaine de capitales africaines contre Alexandre Benalla qui se promenait sur le continent, fort de sa réputation de proche d'Emmanuel Macron. Il n'y a qu'un seul canal pour communiquer avec la présidence de la République et cela ne passe pas par Monsieur Benalla, disait officiellement alors le Quai d'Orsay. Alexandre Benalla est aujourd'hui devant la commission d'enquête du Sénat sur son affaire. Quelle vérité pourra-t-il dire sur ces « bad boys du pouvoir » Le Mot et du Monde, où je lis aussi ceci. Vers minuit, cette fameuse nuit du 18 juillet, Alexandre Benalla fut rejoint dans son bar à chicha par Jean-Yves Huneau de la préfecture de police de Paris qui lui remit un CD-ROM sur lequel des images d'une caméra de vidéosurveillance montraient que le couple qu'il avait secoué avait auparavant lancé des projectiles sur des policiers. Images intéressantes mais qui n'auraient pas dû sortir de la préfecture et encore moins se retrouver au milieu de la nuit sur un compte Twitter proche de En Marche. Et Le Monde poursuit. Soit Benalla est l'auteur de ce tweet, soit il a confié le disque à quelqu'un. Grâce au bornage des téléphones, les enquêteurs se contentent de noter qu'à ce moment de la nuit, un seul correspondant d'Alexandre Benalla se trouve dans les parages, Ismaël Émélien, le conseiller spécial du chef de l'État. C'est un mystère parmi d'autres et l'écriture journalistique est aussi une suggestion. Sinon, à propos de caméras de surveillance, je lis dans l'Union et l'Ardennais que des villages de campagne s'équipent comme les grandes villes de caméras de vidéoprotection. Car on cambriole à Vivès, étant 108 habitants, et à Seuil, 166 habitants, 4 caméras qui filment jour et nuit. Et à Blême, 220 habitants, les caméras ont attrapé une femme élégante qui subtilisait des balises de chantier rouge et blanche pour en faire des couloirs pour ses chevaux. Et notre monde de surveillance généralisée piège donc aussi bien le pouvoir politique qu'une sans-gêne de la Marne. C'est une preuve d'égalité.
Mais ce sont, Claude, les inégalités que soulignent les journaux ce matin.
Avec ce rapport de l'organisation Oxfam dont nous avons parlé ce matin et que Libération détaille dans toute sa cruauté, 26 personnes possèdent autant que 3,8 milliards de personnes, la moitié de l'humanité. Et ce niveau d'inégalité qui dépasse la raison ne se trouve pas seulement dans Libération, journal de gauche, mais aussi dans Les Échos, où j'apprends qu'un être humain sur 7 sur cette planète n'est pas seulement pauvre, mais invisible, dépourvu de papiers officiels. 1,1 milliard d'invisibles, c'est 78% de la population au Nigeria, dans un état, le Nigeria, qui veut lancer des cartes électorales à puce électronique pour son élection présidentielle. Dans le Figaro, notre pays plus doux prend un drôle de visage dans la chronique économique de Jean-Pierre Robin. Près de 3 millions de jeunes Français entre 15 et 34 ans, 2,850,000 précisément, sont totalement oisifs, ne travaillent pas, ne sont pas scolarisés, ne sont pas en formation. Et Jean-Pierre Robin constate que le grand débat et la lettre du président Macron font la part belle aux débats fiscaux, mais font l'impasse sur les mots « jeunes » et « production ». Je lis tout ceci donc un lundi matin, quand le président de la République va accueillir à Versailles 120 patrons mondiaux qu'il convient de rassurer sur l'attractivité de la France. Elle est encore bonne auprès des investisseurs internationaux, m'assure Les Échos, rassuré, sondage à l'appui. Je lis tout ceci un lundi matin, donc veille d'un mardi, où commencera le grand forum économique mondial de Davos. Tiens, Oxfam, on en parlait, sera à Davos pour débattre avec les grands du monde, car l'organisation ne fait pas que constater un univers inique. Elle veut aussi le corriger, car les inégalités ne sont pas nées de rien, mais de choix politiques, puisque le dit Winnie Byanyima, directrice générale d'Oxfam à Libération, depuis des années, la fiscalité favorise les milliardaires. Il convient donc de taxer les riches et de rendre gratuits les services publics. On en revient toujours aux impôts.
et un homme qui a beaucoup travaillé pour finir.
Qui s'appelait Mohand Dendoun et qui est mort vendredi à 90 ans. Il était venu d'Algérie, il avait travaillé en usine, puis comme jardinier, nul ne le connaîtrait. S'il n'avait un fils, Nadir, journaliste, et si Nadir n'avait un ami, un street artiste nommé Vince, auquel la municipalité de Malakoff, Hauts-de-Seine, avait demandé une fresque pour décorer un immeuble. Et Vince a fait un dessin à partir d'une photo de Mohand qui resserre sa cravate en vieux travailleur élégant et qui en est immortel au nom de tous les autres Chibani que l'actualité ignore. Jolie histoire dans Le Parisien. Dans le Télégramme, j'en lis une autre, d'un petit bonhomme qui ne doute de rien et veut faire dire au pape que l'église s'est trompée en fixant au 21 avril prochain la prochaine... Le 28 avril prochain, la prochaine date de Pâques. Non, ça devrait être le 21 mars, dit Howard Cronhurst, qui vit en Bretagne, où il étudie les mégalithes préhistoriques, mais qui, curieux de tout, s'est penché sur les œuvres des pères de l'Église et du pape Grégoire XIII. Je vous passe son raisonnement plein d'équinoxes de printemps, mais bref, on risque de se tromper. Howard a écrit au pape, par l'intermédiaire des moines de Kerdgonan, j'attends désormais, avec le télégramme, rectification.
Merci Claude.